rarement constructive. Mmh. Alors, lorsque l'on voit comment fonctionne l'opposition dans nos assemblées parlementaires, notamment, et en particulier à l'Assemblée nationale, elle est souvent là, s'opposer pour s'opposer. Mmh. Exemple, la loi Macron, mmh. Dans une certaine mesure, elle l'a soutenue, mais lors du vote final, elle a voté contre. Mmh. Bon, c'est à ne plus rien y comprendre, effectivement. Ouais. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, le problème de ce regard citoyen sur
ces élus, on a plus de lisibilité.
Où ils ne comprennent plus vraiment ce qui se passe, parce qu'ils disent un peu tout et leur contraire, et c'est toujours assez difficile d'y voir clair. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit là la solution. Mm. Peut-être qu'un jour, il faudra y venir pour éviter qu'un parti antidémocratique et antirépublicain n'accède au pouvoir. Mm-hmm. Mais encore faut-il que les autres partis l'acceptent et que l'acceptant, ils soient ensuite en mesure d'accomplir leur mission. Mm. Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement bénéfique pour notre système qui ne repose pas sur ce tempérament.
Alors tout à l'heure, vous disiez la 6e République, sans doute pas une nécessité, mais par contre, vous évoquiez des changements de certains principes constitutionnels auxquels vous pensiez peut-être en particulier.
Oh, la 5e République peut toujours être adaptée. Il y a, vous l'avez sans doute entendu, une révision constitutionnelle qui est engagée. Je ne saurais dire si elle est bien ou mal engagée, mais en tout cas, elle est engagée. L'Assemblée nationale commencera à l'examiner en séance le 4 février prochain. Elle intègre deux éléments, la constitutionnalisation de l'état d'urgence, qui relève aujourd'hui d'une loi ordinaire de 1955, et la délicate question de la déchéance de nationalité. Mmh. Je ne suis pas certain que l'un et l'autre de ces deux points, qui sont une réaction politique immédiate à ce qui s'est passé le 13 novembre dernier, soient absolument indispensables. Mmh. Le premier point, la constitutionnalisation de l'état d'urgence, peut-être davantage. Le second, j'ai déjà même émis des réserves extrêmement sérieuses. De façon plus générale, dans l'équilibre institutionnel, ce n'est peut-être pas tant le fonctionnement et les équilibres institutionnels de la Constitution qu'il faut changer que les tempéraments. Mmh.
La façon d'utiliser ces outils, finalement.
Exactement.
Qui ne sont que des outils.
On ne change pas les choses sans changer les hommes. Mmh. Et malheureusement, le changement des hommes prend du temps. Ce n'est pas seulement le renouvellement complet de la classe politique. Mmh. Hein, c'est vraiment faire évoluer les tempéraments. On a fait une révision importante il y a maintenant 7 ans, bientôt 7 ans, plus de 7 ans, pardon, 7 ans et demi, en 2008, sous la 5e République, qui devait rééquilibrer les institutions, renforcer le Parlement, et in fine, le Parlement paraît encore plus affaibli et l'exécutif encore plus fort. Mmh. Pourquoi ? Eh bien parce que avec un certain nombre d'outils qui devaient permettre à ce Parlement d'exister, le Parlement a continué dans ses coutumes antérieures. Mmh. Et cela ne fait que l'affaiblir davantage, en faisant deux fois plus le travail. Par exemple, je pense à un élément essentiel de cette révision, qui est qu'on ne discute plus en séance du texte du gouvernement, mais du texte qu'a voté la commission de l'Assemblée. Mmh. Et bien, comme auparavant, on discutait toujours du texte du gouvernement, et que donc la commission ne servait à rien. Aujourd'hui, on refait en séance ce qui a été fait en commission, parce que les esprits n'ont pas encore intégré qu'il y avait une commission auparavant qui avait fait déjà tout un travail sur lequel donc on pourrait passer outre. C'est un exemple parmi d'autres, mais tout ça qui vient montrer vraiment que on peut rééquilibrer autant qu'on le souhaite les institutions. Il y a toujours un état d'esprit qui doit évoluer et qui lui prend toujours beaucoup plus de temps. Mmh. Il y a peut-être un point pour lequel je milite depuis plusieurs années, mais qui en réalité est plus utopique que véritablement atteignable, c'est un rééquilibrage au niveau de la révision constitutionnelle. La Constitution en France peut être révisée à l'initiative du président ou des parlementaires, à partir d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, puis enfin une ratification, soit par le peuple par référendum, cela ne s'est produit qu'une seule fois en 2000, soit par le Congrès à la majorité des 3/5. Ouais. C'est bien qu'il y a une initiative, une élaboration et une ratification. Dans la phase d'élaboration, qui est la phase parlementaire proprement dite, les deux chambres des assemblées doivent tomber d'accord sur un même texte. Cela leur donne un droit de veto. Et parmi l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la révision constitutionnelle, à savoir le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le peuple. Il y a une de ces quatre institutions qui est un petit peu moins démocratique que les autres, c'est le Sénat, puisqu'il est élu indirectement. Le Sénat est composé de 348 sénateurs, si bien que la majorité absolue, 175 d'entre eux, 175 personnes, peuvent bloquer un processus de révision constitutionnelle que tous les autres voudraient. Et le président de la République, et l'Assemblée nationale, et le peuple, qui aurait peut-être même élu le président et l'Assemblée nationale pour faire la dite révision, si 175 bonhommes ne sont pas d'accord sur la révision, eh bien, elle est purement et simplement bloquée. Et ça, je trouve que démocratiquement, c'est intolérable. Je ne dis pas qu'il faut supprimer le Sénat, ce n'est absolument pas mon idée, bien au contraire, je pense que le bicamérisme est bénéfique pour notre régime et apporte un équilibre. Je ne dis pas qu'il faut supprimer le droit de regard du Sénat sur la révision constitutionnelle, mais je pense qu'il faut permettre des portes de sortie, des mesures de déblocage, lorsque, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, il y a une impossibilité d'aller plus loin, alors que, visiblement, il y a une attente populaire à ce niveau.
Alors justement, ce peuple, revenons au peuple, vous l'avez dit, ce ne sont pas tant les institutions que les mentalités des politiques qui ont entre les mains cette fameuse res publica dont on parlait tout à l'heure. Comment remettre justement ce citoyen au cœur qui ne se sente pas oublié de la vie publique, de la vie politique? Alors, il y a quelques années, quand Ségolène Royal avait parlé des jurys citoyens, qu'elle proposait de remettre en place ce type d'outils, un certain nombre de politiques rigolaient un peu de cette proposition-là. On parle de plus en plus de démocratie participative. Je voudrais qu'on parle un peu de tout ça. Et j'ai en tête notamment l'exemple islandais. En 2011, alors, suite à la crise financière, le système bancaire s'écroule. Et donc en Islande, il a été décidé donc de relancer une dynamique autour une constituante, en fait, tout simplement, en appelant le peuple à participer. Donc il y a eu tout un processus. Est-ce que justement, c'est pas des démarches de ce type-là qu'il faut remettre en place? On a aussi, par exemple, dans les dispositifs de la politique de la ville, des conseils citoyens avec du tirage au sort. Le tirage au sort, c'était un des outils de la démocratie antique grecque. Est-ce que c'est pas là des solutions pour remettre le citoyen au cœur et obliger les politiques à être en contact permanent et ne pas se dire que la représentation justifie qu'ils aient les mains libres pour agir jusqu'au prochain vote qui remettrait en cause leur action.
Alors, il y a beaucoup d'éléments dans tous les points que vous abordez et je vais essayer de les séquencer pour apporter plusieurs réponses, mais n'hésitez pas à m'interrompre et à me réorienter si je devais m'égarer. Alors tout d'abord, vous avez parlé d'un point qui a été popularisé notamment lors de la campagne électorale de 2007, la démocratie participative. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, ou alors si, je me doute bien de ce que c'est la démocratie participative, mais ce que je ne sais pas, c'est ce qu'est la démocratie non participative. Parce qu'il faudra qu'on m'explique comment est-ce qu'on peut faire de la démocratie sans participation du citoyen.
Donc ça serait sans doute une démocratie participative entre les heures de vote, on va dire, entre ces échéances électorales.
Oui, alors là, en effet, ça c'est peut-être autre chose. Comme disait Rousseau, le peuple est libre, mais en réalité il n'est libre dans une démocratie représentative qu'au moment du vote, et dès le vote terminé, il redevient esclave. Je ne partage pas exactement cette analyse, mais encore faudra-t-il la recontextualiser par rapport à l'époque où écrivait Jean-Jacques Rousseau. Peut-être nécessaire, et je dis bien peut-être nécessaire de prévoir des mécanismes permettant de réimpliquer le citoyen. Mais je dis seulement peut-être parce que encore faudrait-il que le citoyen qui revendique apparemment une certaine volonté d'être réimpliqué, lorsqu'on lui permet de l'être, ne s'implique pas véritablement. On peut voir les taux d'abstention qu'il y a lors d'opérations référendaires. On peut voir les taux d'abstention qu'il y a dans des élections qui ne sont pas les élections présidentielles ou les élections municipales.
Alors c'est peut-être là aussi une question de tempérament et de culture, de choses qui se construisent dans le temps long.
Et c'est là où je peux à nouveau en appeler à Jean-Jacques Rousseau. Lui, il voulait une démocratie citoyenne où, en effet, tout le monde s'impliquait continuellement dans la vie démocratique et que chacun participait à la volonté générale de façon continue, mais cela ne valait dans son esprit que à partir du moment où on avait de véritables citoyens et que ce n'était pas tant les lois qui amélioraient les citoyens que les citoyens qui amélioraient les lois. Et cela requiert un système éducatif parfait.
Et d'éducation populaire aussi.
D'éducation populaire, et que chacun sache de quoi il est effectivement question, pourquoi est-ce que l'on vote effectivement, sur quelles questions et quelles sont les conséquences que cela va avoir. Je prends un exemple qui avait fait grand bruit à l'époque, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, lorsque le 29 mai 2005, le non l'a emporté au référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Le non l'a emporté, à mon sens, et vous me pardonnerez d'être peut-être un peu politiquement incorrect, en raison d'une action très populiste à l'égard de l'électorat. Et cette action très populiste a consisté à dire « Cette constitution, on n'y comprend rien, vous n'avez qu'à la lire, et vous verrez qu'on n'y comprend rien, donc on n'en veut pas. Et en effet, le citoyen classique, même peut-être plus que classique, le citoyen qui s'intéresse à un certain nombre de choses, pouvait lire les plusieurs centaines d'articles de cette soi-disant constitution et absolument rien n'y comprendre. Même les juristes que nous sommes,
oui, je pense que vous êtes arraché quelques cheveux,
du mal à comprendre exactement de quoi il ressort. Mais d'une part, c'est normal parce que c'est un texte qui est extrêmement technique et qui en réalité n'avait de constitution que le nom de son titre, et pas la même que celle de la Ve République. Et d'autre part, ce texte, ce traité permettait de faire avancer les choses. Et ce qui n'a pas été fait, c'est de dire, oui, mais si vous votez non à cette constitution, vous restez en l'état actuel. Donc il faut que vous alliez lire ce que nous avons actuellement pour le comparer savoir si ce que nous avons actuellement vous convient mieux que l'autre. Et je pense que si cette démarche avait été faite, eh bien, il n'aurait pu que constater que ce traité établissant une constitution pour l'Europe permettait de grandes avancées sur le plan de la démocratie, une plus grande clarté dans la répartition des compétences, etc. etc.
Alors, sans rentrer sur la question de fond, sur le oui ou le non à ce traité à l'époque, en tout cas, l'autre fait marquant de ce temps de 2005, c'est que le référendum, le peuple disait non et que la décision a été celle du oui juste après. Donc là aussi, le référendum, qui est aussi un temps démocratique participatif fort, a aussi largement été décrédibilisé depuis 10 ans suite à ce résultat.
Oui, parce que ce qui a été repris, c'est le traité établissant une constitution pour l'Europe qui est devenu le traité de Lisbonne et qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009. En effet, cela décrédibilise, mais cela décrédibilise parce que tous les enjeux de ce référendum n'ont pas été présentés. D'une part, il n'était pas possible de rester en l'état. Et je pense que tous ceux qui ont voté non, ou en tout cas une large majorité, auraient tout à fait pu se ranger à cet avis, qu'il n'était pas possible de rester
en
l'état.
Donc on en revient à cette question de cette éducation populaire, de la pédagogie.
C'est pour ça que je citais cet exemple. Il faut, quand on fait de la pédagogie, il ne faut pas faire de la démagogie, il faut faire une véritable pédagogie et exposer l'ensemble des enjeux. Et non pas simplement ceux qui servent une fin électorale, voire électoraliste, qui était celle que recherchaient un certain nombre de personnes en 2005. Et donc tous les enjeux n'ont pas été exposés, et notamment celui qu'on ne pouvait pas rester en l'état, celui qu'il était nécessaire de faire évoluer, celui que l'évolution permettait de faire avancer la démocratie, et même ceux qui voulaient sortir de l'Europe, qui voulaient voter non parce qu'ils ne voulaient pas de l'Europe, eh bien il fallait qu'ils votent oui, car avec le traité tel qu'il pouvait être adopté en 2005, et celui qui est désormais en vigueur en 2009, il y a une procédure qui permet effectivement de se retirer de l'Europe. Donc même ceux qui étaient opposés à l'Europe auraient pu voter oui, mais tout cela n'a pas été exposé dans le débat, il n'y a pas eu de cette pédagogie, cet enseignement qui a été fait.
On continue avec du David Bowie, et toujours mon art du sans transition. Le morceau s'appelle Moon Age Daydream, c'est un live et c'est David Bowie dans ton livre. I'm an alligator. I'm a mama father calling for you. I'm a space invader. We'll be right back. Il envoie, hein, Marie, David Bowie en live.
Ah ouais, il envoie. Puis alors, c'est la période où il avait une coupe de cheveux terrible.
Avec la mulette, on peut le dire.
Ouais, ouais. Les expériences capillaires de David Bowie, mais il est quand même super beau.
Ah ouais,
voilà.
Ouais,
beau et sexy.
Ouais, beau et sexy. Restera dans l'histoire forever.
Oh oui.
Mais revenons donc à la démocratie. Et d'ailleurs, il s'intéressait aussi à ces questions-là. Tout à l'heure, on a passé une reprise par les Get Up Kids. Le morceau, c'était Suffragette City. Hein.
Oui, absolument.
Voilà, en soutien aux femmes qui se battaient.
Qui se battent. C'est, elle est toujours d'actualité pour certains pays,
ouais,
hein, je rappelle.
Voilà, il y a un certain nombre de pays
où les femmes ont à peine le droit de voter.
Pas du tout. Exactement. Et puis certaines qui peuvent voter, mais avec l'accord du mari ou du père, etc. Enfin, bref.
C'est-à-dire sous tutelle, quoi.
Voilà, exactement. Voilà.
Donc c'est pas vraiment un droit de vote.
Bah, je pense que ces femmes-là, tiens, si on pouvait, on les interrogerait aussi sur des questions de démocratie, de citoyenneté, de l'exercice du pouvoir. Je pense qu'on aurait plein de choses passionnantes à entendre de leur part. Et justement, continuons notre discussion avec Jean-Philippe Derosier. Je le rappelle, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université de Rouen. On a parlé des mots qui fondent nos institutions démocratiques, du modèle. On a parlé de coalition, de l'équilibre des pouvoirs entre les différentes assemblées. On a parlé aussi de la place des citoyens, comment les remettre au cœur. Continuons cette discussion sur cette vie démocratique.
Lorsque l'on veut faire une démocratie la plus directe, la plus pure possible, pas totalement, parce que, comme je le disais au début d'émission, on ne peut pas avoir une démocratie parfaitement directe. Cela implique un certain apprentissage de la pédagogie et une transmission aux citoyens. Alors, les diverses initiatives qui sont faites aujourd'hui, vous avez parlé des conseils de quartier, vous avez parlé des diverses mesures politiques.
Il y a les conseils de développement, les groupements d'action locales dans les dispositifs.
Et puis plus généralement, l'implication dans les partis politiques, les primaires citoyennes, les primaires républicaines. Tous ces éléments-là sont des éléments qui rentrent dans le jeu et dans le débat démocratique, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Lorsque l'on prend des pays qui sont, entre guillemets, extrêmement démocratiques parce qu'ils votent beaucoup, je pense à la Suisse, je pense aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, on a toujours l'impression qu'on ne vote qu'une fois, c'est pour le président des États-Unis, une fois tous les 4 ans. Déjà, c'est un leurre, parce qu'on vote au moins tous les 2 ans pour la Chambre des représentants, dont le mandat se renouvelle intégralement tous les 2 ans, pour une partie du Sénat, dont le mandat se renouvelle par tiers également tous les 2 ans. Et en plus, il y a beaucoup d'autres élections tout au long de l'année, et lors de l'élection présidentielle.
Oui, ils ont plein de votes.
Vous êtes amusé déjà à regarder un bulletin de vote des élections présidentielles américaines, mais nous, sur nos bulletins de vote au présidentiel, il y a un nom sur un bulletin.
Oui.
Là, c'est une feuille A4, recto verso, sur lesquelles il faut faire un nombre incalculable de croix, parce que l'on vote pour le président, on vote pour le représentant et pour le sénateur au Congrès, et puis après, on vote pour peut-être le gouverneur de l'État, on vote pour le Parlement de l'État, et puis on vote pour des référendums de l'État, et puis après on vote pour des questions locales qui concernent la municipalité, et c'est limite jusqu'à poser la question à quelle heure souhaitez-vous qu'il y ait un ramassage d'ordures dans votre rue la semaine prochaine. Et donc, dans ces pays où on vote continuellement et surtout, eh bien, on a des taux d'abstention records.
Est-ce que justement la question, c'est que le peuple peut-être a vu le bout de l'exercice du vote et c'est peut-être d'autres choses dont il a besoin pour s'impliquer dans la vie politique. Alors cette autre chose, je ne le connais pas. Mais par exemple, peut-être connaissez-vous des organismes comme la 27e région qui travaille sur le design des politiques publiques pour réimpliquer dans le processus de construction de la politique publique et donc de cette chose publique. Et là, à partir du moment où on se sent impliqué dans la construction d'un projet ou d'une politique, eh ben c'est sans doute plus facile de se dire cette politique, c'est aussi moi quelque part.
Oui, oui, ça c'est indubitablement le cas. C'est l'objectif des conseils de quartier qui
Tout
a été instauré par la loi démocratie de proximité.
Voilà, même avec des budgets justement participatifs.
Où effectivement les conseils de quartier votent, participent à l'élaboration du budget, participent à l'élaboration de la politique de la ville et peuvent ainsi intervenir. Mais cela ne ne va mobiliser que ceux qui voudront bien s'y intéresser. Mmh. Alors après, il y a une deuxième démarche qui consiste à essayer d'impliquer les différents citoyens. Cela, je crois, a permis de porter un certain nombre de fruits, notamment le fait que, comme je le signalais tout à l'heure, le taux d'abstention se stabilise un petit peu. Mais est-ce que c'est là la solution ? Là encore, je ne le sais pas. Je suis assez convaincu que lors des prochaines élections nationales, donc en 2017, sauf incident si cela devait se produire, mais là on approche de plus en plus de la date, donc la probabilité est de plus en plus incertaine. Je pense que donc lors de ces élections de 2017, il va y avoir un véritable enjeu démocratique. Mmh. Il va y avoir une véritable discussion sur le rôle du citoyen et son implication dans la sphère politique et même dans la sphère constitutionnelle. Mmh. On parle, pour dévier un petit peu notre propos sur des considérations peut-être plus politiques, on parle parfois soit d'un virage à gauche, mmh. soit d'un virage à droite. Actuellement, on reproche au gouvernement de Manuel Valls et de François Hollande peut-être d'être trop à droite et d'abandonner la gauche, alors que les meilleurs scores sont ceux de la droite et de l'extrême droite. Mmh. C'est complètement absurde. Mmh. Et donc je ne pense pas que ce soit un tel besoin politique de gauche ou de droite. Je crois que c'est véritablement un besoin de considération du citoyen qui se sent en effet déconsidéré. Sans doute est-ce là l'une des motivations de son vote vers certains partis politiques. Et je pense donc que si l'on veut remobiliser l'électeur, que ce soit pour faire face à l'abstention ou pour éviter qu'il ne s'égare dans des partis extrêmes, il faut avancer et réintégrer, réimpliquer le citoyen dans la sphère publique.
Réintégrer le citoyen dans la sphère publique, un moment et un enjeu démocratique fort en 2017. Je suis assez d'accord avec ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Marie, mais c'est vrai que voilà.
Bah, c'est essentiel. On a tout à l'heure, il a été dit remettre les citoyens au cœur du dispositif et au cœur, c'est en plein milieu, dans la cible. Et sans citoyens, il n'y a pas de démocratie.
Ouais, voilà.
Donc, ça va nous faire 6 mois.
Ben oui, voilà. Exactement. Et ce qui est dingue, c'est, tu l'as aussi évoqué dans ta chronique en début d'émission tout à l'heure, au sortir des élections régionales, il n'y avait pas une femme ou un homme politique pour tous disaient en tout cas qu'il fallait changer, faire autrement. C'était le mot d'ordre. Voilà.
Enfin, tous avec des degrés différents. Et on voit que le résultat, quelques semaines plus tard, il n'en reste plus beaucoup.
Ben oui, voilà.
Voilà, c'est toujours plus facile de se laisser entraîner. En fait, ça oblige les politiques à sortir de leur zone de confort, de leur mode de fonctionnement. Il y a eu quelque chose tout à l'heure de dit sur faire évoluer les tempéraments.
Oui.
Et on voit bien, il a dit, l'affaiblissement du Parlement est aussi dû au fait qu'on a continué dans des coutumes centenaires. Et on voit bien à quel point il est urgent, mais alors urgent, de sortir cette zone de confort, de changer le mode de fonctionnement. Et c'est valable pour tout le monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que ce soit que les politiques qui le fassent. Mmh. Et qu'on a tous individuellement et collectivement un rôle à jouer.
Mais oui. Alors, on voit émerger un peu partout diverses initiatives pour réimpliquer les citoyens. Alors, il y a des initiatives de différents ordres. Certaines, par exemple, j'ai en tête un site qui a ouvert récemment qui s'appelle Primaire. Alors, je ne sais pas si c'est primaire.net.org ou je ne sais quoi. En tout cas, qui propose de faire émerger un citoyen candidat pour les prochaines élections. Alors, je fais une aparté. Marie, je propose, pendant qu'on discute, d'écouter en fond. Une autre version, encore une reprise de David Bowie par Seoul George.
Avec un grand plaisir.
Voilà. Le morceau s'appelle Rock'n'Roll Suicide. Et donc voilà, il y a des initiatives de ce type-là.
Il y a eu plusieurs initiatives qui sont sorties en plus au lendemain des élections de décembre, avec souvent des jeunes d'ailleurs. Ça me fait penser à une image qu'on a vue ces jours-ci dans la presse espagnole, où on voit au Parlement Podemos qui arrive et il y en a un avec ses dreadlocks qui est face au Premier ministre, qui a l'air complètement ahuri de voir, peu importe ce que les gens pensent, ce qu'ils portent, comme ce qu'ils véhiculent, mais c'est la manière de faire. Je pense qu'elle est radicalement différente et c'est aussi pour ça qu'ils sont là, de la même manière que leur petit camarade camarades plutôt libéraux. On a en France donc pas mal de sites qui ont émergé, qui ont donné des idées, et puis ça a fait un peu flop aussi, là, je sais pas, c'est un peu comme les élus, tout le monde est hyper concerné, mais on est tous un peu pareil, hein, rattrapés par le quotidien. Il y a un fil qui vient de s'ouvrir qui s'appelle La Transition, alors je sais pas si c'est un vrai coup de pub, vous pouvez le trouver @la-transition sur Twitter. France bloquée, la seule société civile, ils disent donc pas à droite, pas à gauche, mais surtout pas au centre, qu'est-ce qu'on peut faire? On verra bien si ça aussi c'est un coup de com, parce que c'est un coup de communicant, alors bon voilà, qu'est-ce que ça va donner? Et ça va venir vite, hein, 2017, hein, c'est dans 18 mois. Hein.
Ouais. Et puis on ira voir aussi jusqu'en juin d'autres types d'initiatives. Il y a des lieux, des espaces où les gens s'organisent collectivement, en autogestion, ou alors oui, on est à des micro-échelles, mais où justement ils se posent aussi la question de l'exercice du pouvoir, comment on prend une décision dans un groupe plus ou moins constitué et tout. Ça sera intéressant d'aller regarder aussi de ce côté-là.
Et puis d'avoir leur retour. De toute façon, tout groupe humain a nécessairement des logiques d'exercice d'autorité, en tout cas, si ce n'est pas de pouvoir. Et la vraie question, c'est comment on arrive à faire en sorte que ça soit une force et non pas une faiblesse.
Voilà, et bien tout ça, c'est ce qui va nous occuper jusqu'au mois de juin dans ton libre. Dans un peu moins d'une minute, nous nous quittons, écoutons quelques musiques de Rock'n'Roll Suicide de David Bowie, repris par Seaweed George, et on se dit au revoir dans quelques instants. Voilà, c'était Seaweed George, c'était ton livre. Il est désormais quasiment 20h. J'ai pas la minuterie devant moi, mais ça approche, ça approche. Merci d'avoir été avec nous pour ce retour de ton livre sur l'antenne d'HDR. Le mix des cultures, ça fait toujours autant de bien, c'est toujours aussi précieux. Le son, c'est la vie. Merci Marie d'avoir également été avec moi.